Bienvenue dans votre émission qui met en valeur les talents émergents.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative dans cette émission Tremplin Musical. Pour nous accompagner dans cette émission, Manu Raymond, auteur, compositeur, interprète, né à Chambéry, vivant à Aix-les-Bains. Bonjour et bienvenue sur RCC, Manu.
Salut, bonjour.
Alors merci de nous accorder quelques instants, on va déjà faire connaissance un petit peu avec toi, ton parcours, et effectivement il y a pas mal de choses à raconter, donc déjà raconte un petit peu, ça vient d'où cet attrait, cette passion pour la musique dès tout petit ?
Oui, dès tout petit, j'ai commencé à jouer donc du saxophone quand j'étais assez jeune, puis après ça a été la guitare vers l'adolescence.
Et pourquoi voilà, le saxo donc... Manu du coup ?
Eh ben en fait, j'habitais dans une ville qui s'appelait Saint-Pierre d'Albigny. C'est un petit village, oui, une petite ville en Savoie. Et du coup, il y avait tous les jeunes du collège, qui même de l'école primaire, il y avait certains élèves qui faisaient partie de la chorale ou de l'orchestre en fait du village. Et du coup, ben moi, je me suis lié d'amitié avec quelques personnes qui avaient donc à l'école primaire. Et puis on m'a dit, viens à l'école de musique et tout ça. Alors du coup, je me suis rendu à l'école de musique et puis en fait, j'adore le jazz. J'adore la chanson qui s'appelle « Petite fleur » de Sidney Beckett. Donc du coup, j'ai décidé de jouer du saxo, saxophone alto.
Ok, bon, ça c'est chouette. Et c'est pas trop compliqué, trop dur ?
Si, c'est vachement difficile au départ parce qu'en fait, le plus dur, c'est d'arriver à faire passer l'air en fait dans le bec. Donc déjà, juste pour apprendre à passer l'air dans le bec, il y en a déjà presque au moins pour 3, 4, 5 mois d'apprentissage, juste pour vraiment pour que ton air il passe bien dans le saxophone, parce que sinon tu as des couacs sans arrêt et ça fait mal aux oreilles d'ailleurs. Mais une fois qu'on a passé cette étape et qu'on arrive enfin à jouer des notes et puis à réguler son son et son air, ça devient quelque chose de formidable.
Et du coup, avec cet apprentissage, etc., vous faisiez des concerts, des représentations avec l'école de musique ?
Oui. Alors du coup, on allait jouer souvent dans des hameaux différents. Donc il y avait l'orchestre qui allait jouer à Miolan, au château de Miolan. Après, on allait jouer vers Coise. En fait, on se déplaçait, tout ça. Puis bon, il y a eu des échanges avec d'autres orchestres, même dans des pays allemands, tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Les Virtuoses. Voilà. Et ça, c'est vraiment drôle parce que c'était vraiment un peu ce qu'on a vécu, quoi.
Donc là, très bien pour cette formation. Alors, saxophone et après guitare, c'est ça ?
Oui, saxophone et après guitare. Du coup, la guitare, ça, c'est ma mère qui m'a appris 2-3 accords de guitare sur une guitare classique. Et après, j'ai continué à jouer de la guitare à l'internat. J'étais à Annecy, à Crangé-Vrier, au lycée Baudelaire. Et c'est là que j'ai commencé à chanter un peu de reggae, du rock, que j'ai joué un peu Police, tout ça. Enfin, voilà.
Ouais, une ouverture musicale, quoi. Mais c'est pas commun, ça, que ce soit la maman qui transmette le virus de la musique, quoi, et de la guitare.
Ah oui, parce que ma mère, en fait, a chanté beaucoup quand elle était jeune, quand elle avait 20 ans aussi, elle adorait chanter. Ma mère a été comédienne pendant une très grande partie de sa vie. Et donc, quand on est comédien, moi aussi, je suis comédien, on touche un peu à tout. On est un peu chanteur, musicien, enfin voilà quoi. Donc du coup, elle m'a...
Transmis un petit peu cette passion, finalement.
Voilà, elle m'a transmis cette passion et du coup... c'est de père en fils, de mère en fils ou en fille.
Et vous avez joué ensemble ou pas ?
Oui, nous, on n'a pas joué. On a joué pas trop de musique. Par contre, on a fait beaucoup de théâtre ensemble. Parce que, donc, du coup, ma mère a eu une compagnie de théâtre pendant à peu près 25 ans. Compagnie de théâtre jeune public. Donc, du coup, on a joué dans pas mal de festivals. C'était une compagnie de théâtre de marionnettes. À Chille, à Gaine, et donc justement on chantait, on jouait la comédie pour des écoles, des MJC, des offices du tourisme, des petites salles de spectacle, des grandes salles de spectacle parfois aussi, des festivals comme Charleville-Mézières, comme le festival du Grand Bornan, et donc voilà, on a fait beaucoup de festivals et de dates avec ma mère. Et voilà, j'ai commencé ce métier quand j'avais 14 ans, en fait. J'ai commencé à être comédien et à chanter de manière professionnelle à l'âge de 14 ans. Donc du coup, on a travaillé en famille au début, quand j'ai commencé.
Bon, bah, dans la culture depuis pas mal de temps, depuis tout petit, hein, quasiment finalement. Donc ça, c'est, ouais, c'est chouette. Avant de parler du petit parcours quand même de The Voice, qui n'est pas donné à tout le monde, on va en parler un petit peu. Donc on a bien compris que t'aimes un petit peu le jazz, etc., tout cet univers-là, même si t'es ouvert un petit peu par la suite. Mais quelle serait la chanson inavouable que t'aimes bien et que tu dis pas trop?
Bah, il y a une chanson, moi, qui m'a toujours vraiment fait énormément de bien, que j'aime énormément. Je sais même pas si on pourrait appeler ça une chanson, on pourrait plutôt appeler ça une œuvre musicale, c'est Les Canons de Pachelbel. En fait, c'est une chanson qui m'a toujours apporté un certain réconfort, positivité, et qui permet de voyager. Et en fait, si on analyse la chanson, cette composition, il y a plusieurs personnes, donc des gens qui analysent un petit peu la musique, qui ont dit qu'elle avait une vibration en fait qui amenait que du positivisme et qui enlevait l'anxiété. Et donc en fait, moi qui suis quelqu'un qui est un petit peu stressé de temps en temps et qui a un petit peu d'angoisse, ben je me mets un petit peu cette chanson, Les Canons de Pachelbel, et ça me fait ça me rend mieux, je me sens bien.
Bon, bah, aujourd'hui, en tout cas, il n'y aura pas besoin de cette chanson, Manu. Hein.
Non, aujourd'hui, ça va, ouais.
Pas de souci là-dessus. Allez, parlons un petit peu maintenant de ce parcours quand même de The Voice. C'était en 2013, si on regarde un peu dans le rétro, à 25 ans. Voilà, comment on arrive à faire cette émission? Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, ça s'est passé que juste avant de faire cette émission, j'écrivais donc des textes pour des artistes. Et donc, je me déplaçais un petit peu à droite, à gauche. J'avais 23 ans. J'écrivais des chansons. En fait, j'étais surtout compositeur. Et donc, je travaillais pour des producteurs différents. Je faisais des featuring avec, d'ailleurs, des groupes de rap aussi, de temps en temps. Il m'est arrivé de faire des featuring, mais ça, c'était sur Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais de temps en temps, même à Montmartre. J'avais quoi? J'avais 24 ans. Et je jouais à Montmartre de temps en temps au pied des funiculaires avec ma guitare. Et je vendais donc des CD à des touristes chinois et japonais. D'ailleurs, mon premier album, ouais, je le vendais dans la rue. Et je gagnais ma vie comme ça. Et puis, à la suite de ça, il y a des gens qui, bon, des casting directeurs, des gens qui recherchaient pour l'émission, qui ont vu mon profil et qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Est-ce que ça te dit que de passer casting pour The Voice ?» Et puis bon, bah moi, à cette période-là, j'avais pas vraiment de structure derrière moi en tant qu'artiste, c'est-à-dire j'avais pas vraiment de production, j'avais pas de manager, j'avais personne. Donc je me suis dit, je vais aller faire cette émission et puis je vais aller passer le casting. Et je suis allé passer le casting, j'ai fait un casting, on m'a dit que c'était bien, j'ai fait deux castings, on m'a dit continue, c'est super. Et puis boum, bah, je me suis retrouvé aux auditions à l'aveugle. Et c'était l'année où Louane a fait l'émission aussi. Il y avait Louane, il y avait Johan Fréjet, Emmanuel Job, Sophie Tapie, Luc Arbogast. D'ailleurs, j'ai pas mal joué avec Luc Arbogast. C'était quelqu'un qui faisait pas mal de musique médiévale.
Oui.
Et puis, on a été à une assez belle... Il y avait Olympe aussi. C'était une assez belle année, cette année-là. Il y avait pas mal de gens. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu les quatre sièges. Il y a Jennifer, Louis Bertignac, Florent Pagny et puis Garou qui sont retournés.
Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est quoi l'émotion, là?
Bah, écoutez, moi, si vous voulez, l'émotion, j'étais juste content, en fait, d'en être arrivé là, parce que, si vous voulez, on réalise pas vraiment, mais bon, c'était sympa de voir que on a des gens qui sont, comment dire, qui ont une notoriété, qui se retournent et que ça fait genre, bon, bah voilà, tu vas accéder à l'étape supérieure de l'émission. Et en fait, bah, ça apporte une notoriété quand on fait ce genre de l'émission, surtout quand l'émission a commencé. Cette émission, quand on était à la saison 2, c'était une émission qui marchait encore vachement bien. Après, c'est vrai que maintenant, l'émission est à un peu moins de force, je trouve, parce qu'on en est quand même à pas mal de saisons. Donc, les gens, peut-être, finalement, se sont peut-être un petit peu lassés, en fait, du même principe. Mais au début, l'émission marchait vraiment. Ça battait son plein à fond. Il y avait beaucoup d'audience, etc. Moi, j'ai vraiment été content dans le sens où j'ai senti que ça allait m'amener un petit peu ailleurs. Parce que au niveau du ressenti, c'était surtout, c'est un accomplissement de quelque chose et une reconnaissance. C'était surtout ça.
Oui, une reconnaissance qui peut ouvrir d'autres portes derrière.
Exactement, exactement.
Et du coup, alors, les quatre fauteuils, ok, le choix du roi, du coup. Et vous avez choisi Garou.
Voilà, Garou, oui. Ouais.
Et pourquoi, ouais, du coup, lui, plutôt que les trois autres?
Eh bien, parce que moi, je suis juste quelqu'un d'un peu loyal et puis fidèle. Et du coup, ben, quand il y a quelqu'un qui me file un coup de main et que c'est le premier à me filer un coup de main, ben, moi, par principe, ben, je vais chez les gens qui m'ont filé un coup de main les premiers. Parce que moi, quand ça s'est retourné, j'ai vu, il y a eu Florent Pagny, il y a eu Garou en même temps. Mais Garou, c'était le premier. Et bon, bah, moi, voilà, comme ça a vraiment été une question de loyauté. Après, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Aujourd'hui, des fois, je me pose encore la question parce que c'est vrai que, en fait, moi, j'ai rien contre Garou, hein. C'est un gars super gentil, hein. Tout ça, il n'y a aucun problème. Simplement, est-ce qu'on a su tirer dans cette émission le meilleur parti de ma voix? Est-ce que Florent Pagny, par exemple, n'aurait pas su me dire, tiens, je pense qu'il faudrait choisir quelque chose, une chanson différente pour la suite, un truc différent, qui m'aurait peut-être amené plus loin, en fait.
Ouais.
Parce que moi, je me suis dit, en fait, j'ai choisi Garou à l'époque parce que Garou, c'est un guitariste, c'est un chansonnier, comme ils disent au Québec, parce que d'ailleurs, je suis, entre parenthèses, je viens de revenir du Canada, ça faisait 9 ans que j'y étais, et du coup, je suis devenu canadien. Donc, on appelle un guitariste chanteur au Canada, on appelle ça un chansonnier.
D'accord.
Mais du coup, voilà. Donc, mais moi, je me sentais proche aussi du Garou parce que c'était un guitariste chanteur, un guitariste folk. Mais voilà. Après, en ce qui concerne la voix, est-ce que j'aurais pas pu finalement faire quelque chose avec un autre coach aussi qui m'aurait peut-être amené plus loin aussi?
Ouais, puis
ça aurait été possible.
Voilà. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Et puis à l'inverse, voilà, on se pose toujours des questions. Et si j'avais choisi lui, au contraire, il m'aurait apporté ça. Mais du coup, il n'aurait peut-être pas apporté ce qu'a apporté Garou de son côté. Donc c'est vrai que c'est compliqué finalement. Quand il y en a plusieurs se retournent, quand il n'y en a qu'un, ça va.
Ouais, et ce qui est dommage, c'est qu'après, par exemple, je sais qu'il y a certains coachs qui ont continué à rester beaucoup en contact avec leurs artistes et d'autres qui sont restés moins. Il y a des coachs qui ont fait jouer leurs artistes en première partie et d'autres coachs qui ne l'ont pas fait.
Oui, ça dépend de l'affinité.
Voilà, ça dépend de l'affinité. Puis ça dépend aussi de la générosité d'un artiste finalement qui est sur TF1 parce qu'il y a certains artistes qui font ces émissions qui sont assez connus, qui en fait ont vraiment quelque chose d'humain et qui veulent partager quelque chose avec les concurrents qui sont dans l'émission. Mais il y en a d'autres qui viennent des fois et bon, sont juste là pour faire leur travail sur l'émission puis qui ne veulent pas du tout après garder contact avec les concurrents. Donc du coup, il y a vraiment plein de choses en fait à mettre en lumière par rapport à ça.
Bon voilà, comme ça on a un petit peu votre parcours là au sein de The Voice. On va continuer, vous avez déjà un petit peu lancé la perche là justement avec les aventures, le Canada et tout ça. On va en parler justement à venir dans la deuxième partie. Donc là je propose une petite coupure musicale. Quel titre on va écouter? Je crois que c'est Toi et moi, c'est ça?
Alors voilà, Toi et moi, c'est une chanson que j'ai enregistrée à Montréal il y a 3-4 mois en arrière. Et c'est une histoire d'amour, c'est une vieille chanson qui me tenait à cœur d'enregistrer. Une chanson que j'avais écrite d'ailleurs juste en sortant de The Voice. C'était une chanson que j'ai écrite quand j'étais en Indonésie. De deux personnes qui se rencontrent qui passent des bons moments. Et puis après, ben, malheureusement, le destin s'en mêle et puis ils se retrouvent séparés. Et donc on a fait la chanson a été enregistrée à Montréal. J'aurais aimé faire une partie du clip au Mexique parce que je suis parti de Montréal pour revenir à Aix-les-Bains, mais voilà, entre-temps, j'ai fait une petite vacance au Mexique, mais j'ai pas pris ma caméra là-bas, donc du coup, j'ai pas fait d'image. Donc du coup, finalement, le clip, on l'a fait au bord du lac du Bourget et à Chanaz. Voilà. Donc si vous voulez voir le clip, Toi et moi de Manu Raymond sur YouTube aussi, ouais.
Eh ben, on vous laisse découvrir cette musique. Pourquoi pas aller pianoter pour voir la vidéo en même temps. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite, Manu.
Merci.
Et on a rencontré les gens, et puis on s'est dit en chantant qu'on ferait bien le tour du monde ensemble, en dehors des sentiers battus, main dans la main chaque seconde. Toi et moi, diesel un peu froissé qui refoulait toutes ses peines. Alors j'ai mis ma veste de capitaine, je t'ai emmené là-haut, là-bas, je t'ai serré fin dans mes bras. Je t'ai dit tu n'auras plus jamais de peine, il faut juste que tu saches que je t'aime et que j'aimerais juste que tu m'aimes. Toi et moi, c'est juste une autre galaxie, une nouvelle vie pleine de joie. Toi et moi, on était les maîtres du monde, main dans la main chaque seconde. Je suis resté seul sur le chemin, les larmes aux yeux comme un gamin. Mais toute ma vie je laisserai une seconde. Chaque matin je pensais à toi, et puis je m'allierai tout bas. Toi et moi, c'est juste une autre galaxie, une nouvelle vie pleine de joie. Toi et moi, on était les maîtres du monde, main dans la main chaque seconde.
Et nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative, toujours en compagnie de Manu Raymond, auteur, compositeur, interprète. Et on vient de s'écouter donc Toi et moi, le titre. Ça va toujours ?
Oui, ça va, ça va, ça va.
Bon, allez, deuxième partie de cette émission, tremplin musical sur RCC, votre radio locale associative. Alors, on va évoquer maintenant un petit peu les voyages, puisqu'après ce tremplin, j'allais dire télévisuel, télécrochet The Voice, bah, vous êtes parti un petit peu en voyage. En France et ailleurs même.
Oui, alors voilà, bah, moi, donc après, je suis sorti de The Voice. J'ai eu, bon, il faut bien rappeler le nom que j'avais à The Voice, c'était Manuret, M-A-N-U-R-E-Y. Donc, si vous voulez chercher aussi sur les réseaux, Manuret, M-A-N-U-R-E-Y, vous pouvez trouver l'audition, les battles, les passages en live, vous pouvez tout trouver sur YouTube. Après, moi, je suis parti en Angleterre. Parce que du coup, j'avais la possibilité de jouer là-bas. En fait, je suis parti en Angleterre parce que tous les rendez-vous que j'ai eus après The Voice ont capoté. C'est-à-dire, j'ai rencontré le producteur, le frère de Dalida, Orlando.
Ah oui.
Donc, la musique, j'ai enregistré un EP. Et bon, il trouvait que ma musique n'était pas son style, en fait. Il voulait quelque chose d'autre. Il voulait vraiment une variété française, très française, un peu dans le style Hélène Ségara, tout ça, ça marchait pas.
D'accord.
J'ai rencontré d'autres producteurs à My Major Company, des gens qui auraient pu me faire travailler, puis tous les projets n'ont pas fonctionné. Et là, j'ai commencé à avoir des opportunités pour aller jouer à Glastonbury. Alors du coup, je suis allé jouer au festival de Glastonbury en Angleterre. Pareil, donc j'ai commencé à jouer en guitare-voix là-bas. J'ai joué à Secret Garden Festival après aussi. Donc j'ai enchaîné des petites scènes comme ça à droite à gauche sur des festivals super sympas où les gens dormaient dans des tentes, des caravanes et faisaient la fête.
Et pourquoi Manu, ça a plus marché là-bas parce qu'ils ont pas la même approche, ils sont plus ouverts.
Alors, ça n'a pas fonctionné plus, mais par contre en fait, j'ai rencontré des gens sympas qui m'ont permis de jouer. J'ai pas vendu des albums, hein, j'ai pas fait fortune ailleurs. Mais en fait, moi, à la base, j'ai un amour de la musique. Donc, je fais de la musique. Et en France, en fait, peut-être qu'on a voulu, après cette émission The Voice, on voulait que je rentre peut-être dans une case pour que je puisse essayer peut-être de vendre de la musique d'une certaine façon, avec une certaine image et tout ça. Et en fait, ça n'a pas fonctionné avec moi parce que ben, je casse un petit peu ces quotas, ces préjugés, ce cadre qu'on voulait me donner, je ne rentrais peut-être pas dedans. Et en fait, voilà, moi, je suis vraiment un musicien, j'aime vivre, je suis quelqu'un de libre. Et en fait, partir là-bas, du coup, on m'a donné plus l'opportunité, on m'a dit, ouais, vas-y, bah, viens jouer là, viens jouer là, viens jouer là.
Oui, ce sont des rencontres, c'est une histoire de rencontres.
Voilà, donc j'ai rencontré plein de gens super sympas. Après, de l'Angleterre, Je suis parti, donc je suis allé à Los Angeles pendant un moment. Bon, là-bas, j'ai joué, j'ai fait des petites scènes, mais des petits trucs. Genre, j'ai joué dans des open mic. Ici, aujourd'hui, c'est arrivé un petit peu après en France, des jam sessions. J'en ai fait pas mal, mais à Santa Barbara, à Los Angeles. Donc, j'avais ma voiture, je vadrouillais entre Los Angeles et Santa Barbara. Je faisais des concerts un peu dans des open mic. J'essayais de me faire connaître là-bas, en fait. Et puis après, de Los Angeles, je suis parti, je suis allé à Melbourne. Melbourne et l'Indonésie. Alors en Indonésie, j'ai chanté, j'ai fait des petits concerts dans des hôtels Ibis. Et ces concerts, ils étaient retransmis à la radio en Indonésie. Donc c'était assez drôle, je faisais un peu d'événementiel en Indonésie. Et puis j'étais bien là-bas à Bali. Et puis après, donc, je suis allé à Melbourne. Melbourne, j'ai chanté un peu dans les bars. Et puis de Melbourne, après, j'ai eu un visa pour le Canada. Et au Canada, je suis parti au Canada et j'ai recommencé un petit peu ma carrière de comédien. J'ai fait des petits rôles dans des films avec Johnny Depp. J'ai fait, voilà, j'ai Batwoman, Supergirl, Flash. J'ai fait de la figure, doublure lumière. J'ai été régisseur. Donc voilà, donc je vivotais un peu de ça. Et en même temps, je continue à faire des concerts. Par exemple, l'Alliance française de Vancouver m'embauchait assez souvent pour me faire jouer pour le 14 juillet. Parce que j'avais un groupe. J'ai pris un bassiste super sympa et un batteur aussi. Et on a commencé à faire un spectacle de chansons françaises à Vancouver, du côté anglo-saxon. Donc là, on a commencé à tourner. On a joué pour le consul de France au Canada. Après, on a joué pour un événement qui s'appelait Dinner in White. Voilà, des dîners en blanc de Vancouver. Donc on a joué devant 3, 4 000, 5 000 personnes, habillés, tous habillés en blanc à Vancouver dans le parc botanique. Puis j'ai joué dans énormément de restaurants, de brasseries, de bars, d'endroits comme ça. Je reprenais des chansons anglaises de Journey. Et puis d'ailleurs, je suis tombé comme par hasard sur les gens qui faisaient l'émission. Je sais pas si vous voyez l'émission 66 minutes.
Bien sûr, sur la 6.
Voilà, bah, comme par hasard, les gars, je les ai rencontrés dans le bistrot où je jouais souvent. Il y avait un grand restaurant où je jouais tout le temps, des jams, des open mic, des concerts. J'étais quasi employé par l'établissement pour mettre un peu d'animation. Et du coup, ils ont décidé de faire un reportage sur moi. Donc du coup, je suis dans les Français à Vancouver. Je suis sur le reportage et donc on me voit jouer. Et puis bon, j'avais un autre boulot aussi sur le côté. Je livrais de la bouffe. J'étais livreur de nourriture. Donc du coup, je livrais de la bouffe avec DoorDash. J'enchaînais les petits rôles. Je passais des castings, machin. Puis en même temps, je faisais des concerts. Et puis j'ai enregistré donc un EP là-bas, j'ai fait un clip, tout ça, sur les bords de l'océan Pacifique, à côté de l'île de Vancouver. Une chanson qui s'appelle For You aussi, qui était vraiment très sympa. Et puis après je suis parti, après il y a eu le Covid, voilà, il y a eu le Covid. Et puis bon ben voilà, ça c'est, la société s'est, comment dire, fermée un peu sur elle-même, les gens se sont éteints. Et du coup ben je suis parti sur Toronto, j'ai recommencé à jouer de la guitare dans la rue. Devant une pizzeria italienne, et j'ai commencé à jouer dans la rue. Et les gens mangeaient des glaces, achetaient des pizzas, et me donnaient une pièce ou deux, un billet, et du coup, je gagnais ma vie comme ça. En fin de Covid, et j'avais le droit de le faire, hein, j'étais dans la rue, je ne me suis pas fait arrêter par la police, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, on pouvait circuler, il y avait moins de contraintes qu'en France, c'était moins contraignant au niveau des problèmes d'hygiène et de sécurité, etc., les lois n'étaient pas les mêmes. Et puis après, bah, j'ai Montréal. Et Montréal, j'ai continué à faire des animations de rue et des événements privés pendant 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je viens de revenir il y a 3 mois et j'en avais un petit peu marre en fait de faire des festivals de rue, des petites animations de rue. En fait, je me suis dit, mais attends, t'es en train de jouer là à Montréal, t'es devenu Canadien, machin, bon, c'est super, je suis bilingue, je parle anglais, tout ça. Mais on a quand même la France qui est un beau pays où on peut faire des dates dans des lieux qui sont formidables. Il y a des restaurants, il y a des petits clubs, il y a des petits festivals, il y a des endroits un peu partout en France. Je me suis dit, pourquoi tu n'enregistrerais pas un titre en français qui te tient à cœur et puis reviens en France un moment, essaie de voir comment ça se passe et puis fais des dates un peu dans ta commune, dans ta région, là d'où tu viens, là où tu es né, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai pris l'avion, je suis revenu. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Après 9 ans de route, à droite, à gauche, à l'étranger, j'ai pris beaucoup de maturité. J'ai vu énormément de choses, j'ai rencontré énormément de gens différents. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux d'être revenu en Savoie, je suis heureux d'être revenu ici, de pouvoir avoir des belles dates qui arrivent. Ça a été un beau parcours musical, plein de richesses.
Eh bien, très bien tout ça. Alors, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on a fait notre deuxième partie. C'était pas prévu, mais on va refaire une coupure musicale et on va revenir pour parler justement de la fabrication des morceaux, de l'écriture, des thématiques, comment vous allez chercher les idées, comment ça se met en musique, en voix, les deux en même temps peut-être, je ne sais pas. On verra ça et on va parler s'il y a des choses qui arrivent, l'actualité, des prochains concerts, des festivals. On va parler de ça dans quelques instants. Allez, dernière coupure musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Need to know the truth. Need to know if I feel comfortable in my shoes. There's never gonna be someone who tell me to. If I have to go right or left or without you. But I have to follow and believe in myself. I belong to you. Of my mind and my spirit wanders.
Et ça y est, on est de retour dans cette dernière partie sur Radio Couleur Chartreuse, dans cette émission tremplin musicale, toujours en compagnie de Manu Raymond, anciennement Manu Ray, du coup, à l'époque de The Voice. Voilà, comme ça, on remet un petit peu d'aplomb la chose. Donc là, on va parler un petit peu maintenant de la construction, de la fabrication des morceaux, des textes. Voilà, au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Quelle thématique? Qu'est-ce qui vous inspire?
En fait, le truc, c'est que moi, je suis assez divers dans le sens où il n'y a pas forcément une chose en particulier qui m'inspire. Je peux composer autant des chansons et c'est un avantage. C'est quelque chose de positif, mais ça peut être quelque chose de négatif en même temps parce que du coup, je suis autant capable d'écrire du rock, du reggae, que je suis capable d'écrire de la variété française, que je suis capable d'écrire des chansons de genre complètement différents. Les chansons, en fait, elles me viennent comme ça. C'est-à-dire, il est 5h du matin, boum, j'ai une mélodie qui vient dans la tête. Et c'est comme si, en fait, mon cerveau doit faire la synthèse de pas mal de choses. Et boum, à 5h du matin, il me délivre une mélodie ou voilà, ça peut arriver. Mais c'est surtout, c'est souvent dans la nuit, au moment où je suis calme, où le silence est là. D'un coup, je me réveille et boum, j'ai une mélodie dans la tête. Donc, je vais dans le salon. Je prends mon enregistreur, j'enregistre la mélodie et après, je commence à travailler sur cette base. Voilà.
Ok, bon bah voilà, comme ça, on en sait un petit peu plus sur le fonctionnement. Et dans ces chansons, dans ces textes, je ne sais pas, est-ce que c'est en français, en anglais, il y a les deux? A priori, il y a les deux?
Il y a les deux, ouais, il y a complètement les deux parce que j'en suis plus à faire quelque chose d'homogène. On m'a souvent reproché ça dans les maisons de disques. Par exemple, j'ai déjà été en contact avec des directeurs artistiques, des directeurs, des DG de chez Warner, de chez Universal. On me disait « Ouais, mais tes chansons, elles sont bien, là. » Mais par contre, là, c'est en anglais, là, c'est en français. Là, c'est...
Comme l'impression que c'était jamais ce qu'il fallait, quoi.
En fait, voilà, c'est jamais ce qu'il faut quand il faut. Voilà, exactement, c'est jamais ce qu'il faut quand il faut. Là, ils veulent, en fait, finalement, couper, mettre plutôt du français. En fait, finalement... Moi, je vais vous dire un truc, j'en viens même à croire que finalement, en fait, les gens dans les maisons de disques, ils vous disent que c'est jamais ce qu'il faut, mais peut-être qu'ils vous disent que c'est jamais ce qu'il faut parce qu'en fait, ils ont peut-être pas du tout envie de vous signer, en fait, et qu'ils ont envie de signer personne et qu'ils ont envie juste de signer peut-être des fois aussi les gens qu'ils ont envie de signer ou les projets sur lesquels eux-mêmes ils se sont investis et qu'on fait peut-être croire à beaucoup d'auteurs qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose, mais en fait, pas vraiment. Et c'est là que j'ai trouvé qu'au niveau anglo-saxon, justement, que du côté anglo-saxon, il y avait plus d'ouverture pour tout ce qui était musique indépendante, en fait. Et c'est pour ça que je me suis vachement réfugié dans la musique indépendante. Et moi, je suis indépendant depuis que j'ai commencé la musique. J'ai jamais vraiment eu un gros label derrière le dos, hein. J'ai toujours été avec des petites structures et des gens... c'est un tout, hein. C'est vraiment un combat de vie, cette histoire, finalement, quand on prend du recul par rapport à tout ça. Bah, pourtant, je fais partie de la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs. Ça fait 20 ans que je suis chez eux. Et ce que j'écris, voilà, les chansons que j'ai faites sont bien. Hein. Les chansons que j'ai faites sont écoutées, les gens les aiment. Bah, d'ailleurs, toi et moi, qu'on a pu écouter tout à l'heure, oui. C'est une chanson qui passe sur pas mal de radios en ce moment, qui est bien produite, que les gens trouvent sympa, qui est très radiophonique. Oui. Et voilà, et en ce moment, bah, j'essaye de me battre pour faire en sorte que cette chanson soit plus écoutée et passe aussi sur d'autres radios. Mais bon, c'est pas mince à faire parce que c'est le travail d'un auteur-compositeur. Aujourd'hui, les auteurs-compositeurs indépendants comme moi, ils doivent faire leurs chansons, les écrire, les produire. Puis après, ben, faut essayer de les faire diffuser à droite, à gauche.
Et oui, il faut les rendez-vous avec les responsables de programme et tout ça.
Voilà, exactement, ouais. Exactement.
Bon, bah, très bien. Alors, dans ces textes, et qu'on pourra, du coup, les chansons écouter sur Radio Couleur Chartreuse, entre autres, bien sûr, est-ce qu'il y a, je sais pas, des messages dans vos chansons où vous voulez faire des chansons vraiment pour, voilà, les auditeurs, ceux qui écoutent, pour passer un bon moment? Voilà, c'est quoi la philosophie?
Alors, la philosophie, pour le moment, je suis pas rentré au niveau politique dans mes chansons parce que, en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses qui vont pas bien que si jamais je commençais à me concentrer sur ce qui n'allait pas bien...
Il y aurait trop pour faire une chanson.
Il y aurait trop pour faire une chanson. Je pense qu'il faudrait écrire un album, si ce n'est pas deux. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'essaye de garder la musique comme quelque chose qui fait voyager les gens, qui leur apporte un moment de fraîcheur,
Ouais.
Un moment où les gens puissent prendre du recul et puissent se détendre. Voilà, aujourd'hui, être dans la revendication, en tout cas, aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas envie de ça. Puis c'est prendre un parti pris après, quand on commence à dire, ouais, ça va pas, ou machin, ou ceci, ou cela. Et puis après, bah, du coup, il y a des gens qui nous aiment pas parce qu'ils disent, ah bah ouais, bah, t'as dit ça. Alors moi, du coup, je préfère écrire des chansons plus d'amour, des chansons de voyage, des chansons d'aventure, des chansons drôles aussi, parce que finalement, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Mon médicament à moi, c'est toi ». Alors ça aussi, c'est une chanson assez drôle. C'est une chanson... D'ailleurs, on a fait un clip aussi à l'époque. Ça, c'était un clip qu'on a fait où on s'est tous déguisés en costume de gros médicaments, de pilules rouges et blanches. Et en fait, c'est pareil, c'est une chanson d'histoire d'amour, mais à la place, en fait, c'est « Mon médicament à moi, c'est toi ». C'est une chanson drôle, je vous invite à aller la voir le clip. On a réalisé le clip, une partie du clip à la Dent du Chat. J'ai fait un aller-retour entre le Canada et la France, c'était en 2022, et j'ai fait pas mal de concerts et on a fait ça. Mais sinon, tout ce qui est chansons en anglais, aussi, c'est souvent des chansons qui parlent, voilà, de... en fait, c'est des chansons qui sont drôles. C'est des chansons à chaque fois qui racontent une histoire, un peu comme Steve Waring ou Henry Dess qui écrit par exemple des chansons pour les enfants, mais Steve Waring par exemple, à chaque fois, moi c'est pas forcément pour les enfants, bien sûr mes chansons sont pas écrites et destinées pour les enfants, mais par contre elles racontent une histoire drôle à chaque fois, ou alors une histoire d'amour. En fait elles parlent, par exemple la chanson I Don't Belong To Me, ça parle... C'est une chanson en anglais, en fait, qui parle des difficultés d'une personne à être soi, à appartenir soit, en fait, à ses projets professionnels dans la vie, soit à, finalement à décider de s'appartenir à elle-même et à faire ses propres choix. Parce qu'il y a des gens qui sont gouvernés, en fait, par leur carrière. Il y a des gens qui sont gouvernés par leur conjoint qui leur dit « Non, mais tu vas faire comme ça, puis tu vas pas faire autrement. » Et donc, du coup, il y a des gens, en fait, qui s'appartiennent plus à eux-mêmes. Parce qu'ils passent leur vie, en fait, à rouler sous les dettes qu'ils ont, parce qu'il faut bien payer le loyer, il faut bien payer ceci, il faut bien payer cela. Donc, du coup, cette chanson, I Don't Belong To Me, en fait, c'est, je ne m'appartiens, j'ai fait une, c'est une chanson qui est comique, en quelque sorte aussi, mais c'est une chanson qui parle, en fait, de l'appartenance à soi dans cette vie, ou de l'appartenance à notre société, à notre système, en fait. Finalement, quelque part, on vit peut-être un petit peu dans une matrix, bon, sans être conspirationniste. Mais on vit dans un système, en fait, et des fois, on devient un petit peu esclave de ce système ou de notre vie, et on n'est plus du tout libre et on ne prend plus du tout le temps de respirer. Voilà. Et en fait, en ayant joué dans la rue, j'ai composé cette chanson qui s'appelle « I don't belong to me », parce que pendant 3 ans, j'ai joué dans la rue à Montréal avec un permis de musicien de rue, et j'ai gagné ma vie comme ça. Et en fait, ça m'a permis d'être complètement libre d'un patron, d'être complètement libre même d'un employeur. C'est-à-dire que je vivais avec la générosité des gens, des touristes américains, des touristes français, des touristes espagnols, mexicains, qui écoutaient à chaque fois une chanson différente et qui me donnaient de l'argent. Et du coup, j'ai pu être libre et c'est un peu pour ça que j'ai écrit cette chanson aussi. Voilà.
Eh bien, retrouver tout ça. Alors, voilà, plusieurs chansons décrites, 2 albums, des EP, des titres. Alors justement, c'est quoi l'actu à venir dans les prochaines semaines, prochains mois là ?
Alors, l'actu à venir, si jamais, bon, vous êtes intéressé un petit peu par tout ce que j'ai raconté là ces derniers temps, premièrement, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, donc sur Instagram, TikTok ou Facebook. Vous pouvez juste écrire mon nom sur Google, vous allez me trouver partout, Manu, donc M-A-N-U, espace Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, donc Manu Raymond. En fait, voilà, donc là j'ai à peu près 16-17 dates pour le moment qui sont prévues sur l'été. Par exemple, là je viens de faire un concert, je viens de clôturer la fin de saison à Val Thorens le 23 avril. Après, ben, le 30 mai, vous allez pouvoir me retrouver sur un événement à Aqualac, organisé par la police municipale d'Aix-les-Bains pour aider donc les personnes qui sont en situation de handicap pour essayer de ramener des fonds. Donc le 30 mai, Aqualac, à côté du restaurant La Plage, il y aura une scène, donc je vais jouer donc de 20h à 22h. Après, je joue pour la fête de la musique aussi à Montreux, le 21 juin, donc en Suisse. Je joue sur une assez belle scène. Après, je joue à Saint-Martin-de-Belleville le 9 juillet, le 6 août à Saint-Martin-de-Belleville en Corse, donc pour le marché, de 11h à 17h. Je joue pour la mairie de Saint-Gervais le 9 août. Et puis, je joue surtout donc dans ma ville, chez moi, le 12 août au Théâtre de Verdure, de 19h30 à 20h30, 21h. En fait, je joue en première partie d'un groupe et je suis très contente de pouvoir jouer chez moi à Aix-les-Bains. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer sur Aix le 12 août, donc à 19h30. Et puis, il y a plein d'autres dates qui s'ajoutent. Donc, moi, j'adore faire du live. Donc là, je suis en train de booker d'autres dates dans des restaurants, dans des endroits, etc. Et je vais certainement... Là, je suis en train de booker des dates aussi pour le sud de la France. Donc, je vais faire des allers-retours entre tout ce qui est Cap d'Agde, le Gros d'Agde et Saint-Tropez aussi, parce que j'ai quelques amis musiciens qui vont me faire jouer aussi à Saint-Tropez. Donc, les dates, en fait, je les affiche au fur et à mesure. Je dis un petit peu où je joue. Je dis un petit peu où je joue au fur et à mesure, voilà, sur mes réseaux sociaux. Manu Raymond, voilà. Voilà là-dessus. Et puis, je suis en train de composer des nouveaux morceaux. Mais déjà, voilà, si vous voulez écouter ma chanson « Toi et moi », si vous voulez venir voir ce que j'ai déjà fait, mon œuvre musicale, elle est dispo. Le plus important, c'est le Instagram. Manu Raymond, M-A-N-U espace Raymond, R-E-Y-M-O-N-D sur Instagram. Et vous pouvez trouver mon Linktree, vous pouvez trouver tous les albums que j'ai déjà fait. Voilà.
Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller cliquer. Super. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans cette émission Tremplin Musical, Manu.
Ben, merci à vous. Ouais. Et une dernière petite chose. Si jamais il y a des gens qui écoutent l'émission et qui sont intéressés aussi pour des soirées privées, pour que je vienne chanter chez vous pour un mariage ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas annoncé mes événements privés, mais j'ai des événements privés aussi. Par exemple, je joue sur les bateaux à Aix-les-Bains pour des mariages. Je joue chez des gens pour des soirées privées, privatives, pour des petits restaurants, tout ça, ou des moyens restaurants. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter via les réseaux. Voilà, encore une fois. N'hésitez pas, mon adresse email est inscrite un peu partout. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un message et ça sera un plaisir de venir animer votre soirée.
Et ben voilà, le message est lancé en tout cas. Merci beaucoup Manu, auteur, compositeur, interprète, né à Chambé et vivant à Aix-les-Bains. Voilà, c'est tout proche, c'est en Savoie. Merci beaucoup d'avoir accepté le tremplin musical sur Radio Couleur Chartreuse. Et ben, on va vous souhaiter de bons concerts.
Ben merci à vous Jonathan, c'est très très gentil et merci à Couleur Chartreuse. Et en tout cas, c'est vraiment super ce que vous faites. Je pense qu'il faut tous s'entraider et que les artistes puissent arriver à être entendus et que tout le monde puisse arriver finalement à être écouté dans notre société actuelle.
Eh bien, en tout cas, on essaye. Merci beaucoup pour cela. Et puis, on se donne rendez-vous très vite pour la sortie d'un prochain album, par exemple.
Yes, merci beaucoup Jonathan, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Et vous, mes auditeurs, auditrices, pour écouter cette émission, cet entretien, ça va se passer sur radiocc.fr. Bonne journée à tous.
Pour retrouver votre émission Tremplin Musical en podcast, rendez-vous sur radiocc.fr ou cliquez sur la grille des programmes pour connaître les horaires de diffusion.